Radio Kapi.
Les informations, Blaise Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, Matadi, racine aphrodisiaque, un danger pour la santé, des produits prisés par les jeunes, mais aux effets inconnus, les médecins tirent la sonnette d'alarme. Kouamout, déplacé, oublié à Bandundu, 4 ans après leur fuite, plus de 400 personnes vivent toujours dans une précarité extrême entre manque de nourriture, abri et assistance humanitaire. Assassinat des experts de l'ONU, 54 condamnations à mort, la haute cour militaire tranche 9 ans après le fait, un verdict qui relance les débats sur la justice et la lutte contre l'impunité au Kassai. Le verdict dans cette affaire a fait l'objet du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. L'actualité de ces jours nous plonge d'abord dans un phénomène qui prend de l'ampleur à Matadi. Il s'agit de l'utilisation des aphrodisiaques traditionnels. Attention donc aux amateurs de ces produits, car ces racines présentées comme des solutions naturelles pour améliorer les performances sexuelles se vendent dans les marchés, les rues et même en ligne. Mais leur composition reste inconnue et leurs effets sur la santé préoccupent les médecins que Élise Kavira a rencontré depuis la ville portuaire du Congo central. Suivez son reportage.
Certains jeunes expliquent y recourir pour compenser la fatigue liée au travail. Fiston Bayekula, motard, témoigne de ces longues journées de plus de 10 heures.
Nous les motards par exemple, ce travail nous cause des problèmes du dos. Donc, sans ces renforts, on est foutus.
Les tradis praticiens, eux, défendent ces remèdes à base des plantes. James Mutanda, connu sous le nom de docteur, insiste sur leur rôle dans l'endurance masculine.
La force d'un homme réside dans son dos. Si tu as des hémorroïdes, tu ne pourras plus être performant.
Mais pour le docteur Georges Baka de l'hôpital de Kinkanda, ces produits vendent une illusion.
Et jusque-là, il n'y a pas de preuves médicales sur l'existence des médicaments pour allonger ou grossir les pénis. Alors ce sont des pratiques qui exposent à beaucoup de conséquences.
Il appelle à un contrôle plus strict, estimant que la vente libre de ces produits constitue un risque pour la santé publique. Matadi, Élise Kavira, Radio Kapi.
Santé avec Ebola. Alors que l'épidémie continue de progresser dans l'est de la République démocratique du Congo, des équipes sanitaires commencent à enregistrer des avancées concrètes sur place selon l'OMS. À la base, des diagnostics accélérés, la surveillance renforcée, des déplacements internationaux et conséquences, c'est l'apparition des premiers survivants. Lievin Bouinga.
L'un des changements les plus importants depuis le début de l'épidémie se joue loin des centres de traitement dans les laboratoires. Selon la docteure Marie-Roseline Bélizère, responsable de la réponse aux urgences de la branche africaine de l'Organisation mondiale de la santé, la mise en place de nouvelles capacités de diagnostic a profondément transformé la riposte. Nous sommes passés d'une capacité d'environ 40 tests par jour à près de 800, explique-t-elle. Les résultats de laboratoire qui pouvaient auparavant prendre plusieurs jours sont désormais disponibles en 24 à 48 heures seulement. Si je déteste aujourd'hui une personne suspecte dans une communauté, le lendemain elle aura son test de laboratoire, a-t-elle indiqué, selon une dépêche de l'ONU Info. Pendant les premières semaines de l'épidémie, certains prélèvements restaient en attente pendant plusieurs jours, laissant planer l'incertitude et compliquant le suivi des malades. Désormais, les autorités sanitaires peuvent confirmer ou exclure rapidement un cas et orienter immédiatement le patient vers des soins appropriés. Pour l'OMS, cette accélération constitue l'un des principaux acquis de la riposte à ce stade et un outil essentiel pour interrompre plus rapidement les chances de transmission.
Mais que se passe-t-il sur le terrain? Direction Nord Kivu, où plus de 600 contacts à risque liés à la maladie à virus Ebola ont été identifiés dans plusieurs zones de santé de la partie grand nord de la province. Ces cas contacts sont issus de 29 cas confirmés enregistrés jusqu'à présent dans cette zone de santé déjà touchée par l'épidémie. Face à cette situation préoccupante, des organisations non gouvernementales en collaboration avec l'hôpital général de Katwa multiplie les actions de riposte afin de limiter la propagation de la maladie. Les détails avec Marc Marofimbo.
La confirmation émane du chef de la division provinciale de la santé, lundi, lors du lancement des activités du centre de traitement Ebola de Katwa à Butembo. Cette structure réaménagée par l'ONG internationale MEDER est implantée au sein de l'hôpital général de référence de Katwa. Selon le docteur Gaston Lumbabo Maboko, plusieurs zones de santé sont actuellement concernées par cette épidémie, notamment Katwa, Beni, Butembo, Oicha, Kiondo, Kalunguta et Goma. Il précise que Katwa demeure l'épicentre de la maladie avec 8 décès enregistrés sur les 18 enregistrés jusqu'ici dans le Grand Nord Kivu. D'après la situation épidémiologique publiée dimanche, l'extension de la maladie dans cette zone du Nord Kivu fait état de nouveaux cas, notamment dans la zone de santé de Beni où 7 cas confirmés ont été signalés et des décès enregistrés. Face à cette situation, les autorités sanitaires annoncent le renforcement de la surveillance épidémiologique ainsi que des mesures de riposte afin de contenir la propagation de la maladie. Elles invitent ainsi la population à respecter scrupuleusement les gestes barrières et à ne pas se fier sur les fausses rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Car, conclut-elle, Ebola existe réellement et tue. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Pour sa part, le Comité international de la Croix-Rouge met la main dans la pâte en Itourie. Le CICR a remis lundi un lot de matériel de gestion des dépouilles mortelles au service de la protection civile. Objectif, renforcer la capacité d'intervention des agents de ces services sur le terrain, surtout en cette période de crise sanitaire que traverse la province, explique l'organisation humanitaire. Cet appui vient à coup sûr répondre aux besoins urgents des communautés confrontées à des situations exceptionnelles. Marcel Kisabiamongo.
Ce lot de matériel est composé de pelles, des protège-genoux et des coudes, des bêches et des pioches. Il y a aussi des sacs mortuaires, des salpettes, bâches, seaux métalliques et autres outils utilisés lors des inhumations. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, très impliqué dans la riposte contre l'épidémie à virus d'Ebola, estime que cette assistance va renforcer la capacité opérationnelle de ces services dans la prise en charge des situations d'urgence. Les cas, par exemple, des enterrements des personnes mortes d'Ebola qui nécessitent une gestion digne et sécurisée des cadavres. Le directeur provincial de la protection civile à l'Ituri, Robert Djalonga, indique que ces outils viennent répondre à un besoin longtemps exprimé par son service. Il y a quelques mois, des agents de ces services ont suivi une formation spécialisée dans le domaine de la gestion des dépouilles organisée par le CICR. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Dans la partie ouest de la RDC, des déplacés internes et des Kwamout installés dans la ville de Bandundu, dans la province du Kwilu, continuent de vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Arrivés depuis juin 2022, à la suite des violences liées au phénomène Mobondo, ces familles affirment faire face à une grave précarité, marquée notamment par le manque de nourriture, d'abri des soins et d'assistance humanitaire. Pour assurer leur survie au quotidien, plusieurs déplacés exercent des petits travaux occasionnels, tels que le sarclage, la lessive ou encore les travaux ménagers. Une situation qu'ils qualifient d'abandon près de 4 ans après leur déplacement. Sur le site de Malebo, qui accueille actuellement plus de 400 personnes, les conditions de vie demeurent préoccupantes. Parmi les déplacés figurent plusieurs jeunes filles devenues mères dans un contexte de grande vulnérabilité et d'insécurité. Écoutez le président de l'Union des consommateurs du Grand Bandundu, Maître Didier Aboukani. Les propos de Maître Didier Aboukani sont recueillis par Jean-Claude Tangamou, notre correspondant de la radio-télévision Bandundu Développement.
Vraiment, c'est déplorable. Nous sommes en train seulement de demander au gouvernement central qu'il puisse quand même mettre des moyens, qu'il puisse chercher à rapatrier ces gens. Mais jusque-là, il n'y a rien, il n'y a aucune solution. Ils sont là, il y a une accalmie là-bas, au plateau. Qu'il puisse organiser les rapatriements de ces gens là-bas chez eux. D'ailleurs, le plateau, c'était parmi les plus grands greniers du Congo qui fournissait Kinshasa et Bandundu. Le constat est amer, vraiment la production a baissé à cause de cet incident-là. Nous sommes en train de voir comment ces déplacés-là sont devenus des mendiants, leurs filles enceintes suite à des conditions difficiles qu'ils sont en train de traverser. Il y a un problème de suivi, évaluation et redevabilité. Même si le gouvernement sortait l'argent, mais s'il ne faisait pas de suivi, ces déplacés plutôt sont oubliés. Ils ne reçoivent des fois rien du tout.
Je vous signale que des violents combats ont opposé hier mardi des groupes armés Wazalendo au mouvement rebelle AFC M23 sur plusieurs axes du territoire des Masisi. C'est notamment sur l'axe Ngongu, dans le groupement Ufuamandu 1er, ainsi que sur l'axe Roubaïa, en groupement de Kibabi. Cette reprise des hostilités provoque un nouveau déplacement des populations civiles dans la zone, indiquent plusieurs sources locales. Les détails avec vous, Kaki Akewa.
Selon des sources locales, c'est vers 1h du matin que la coalition Azalendo CMPDN, coalition des mouvements patriotiques pour la défense nationale et le groupe Pareco FF, dirigé par les généraux autoproclamés Kigingi Jean Didieu, ont lancé des offensives contre les positions de l'AFC M23. Les combats ont été signalés dans les villages de Kinigi, Kaseni et Nyakigano, situés dans les groupements de Kibabi, à proximité des Rubaya. Parallèlement, vers 4h du matin, les combattants Maïmaï Lamuka, affiliés au groupe des Machano, ont également attaqué des positions de l'AFC M23 sur l'axe Ngungu, dans les groupements des Oufamundu 1er, en chefferie des Baoundé. Des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus jusqu'en début d'après-midi dans les villages de Kasake, Koshovu et Mayuano, selon les sources de la société civile et des Katoï. D'après ces mêmes sources, des milliers d'habitants ont fui les combats, certains en direction de Ngungu, d'autres vers Rubaya. Une autre source locale rapporte qu'une femme âgée et un garçon de 13 ans auraient été tués par l'explosion d'un engin dans les villages des Kaseni. Elle ajoute que la situation demeure tendue dans cette zone où les combats ont repris après plusieurs jours d'accalmie.
Restons dans ce chapitre. L'insécurité persistante dans l'est du pays et les violences de la milice Mobondo dans l'ouest du pays, cette fois, continuent de peser lourdement sur la situation des droits humains en RDC. C'est ce qui ressort du rapport annuel Activité 2025 et du rapport sur l'état des droits de l'homme présenté lundi par la Commission nationale des droits de l'homme devant l'Assemblée nationale ici à Kinshasa. La CNDH a dressé un tableau préoccupant de la situation tout en alertant les difficultés qui freinent son action sur le terrain. Les deux rapports ont été déclarés recevables par la plénière. Le point avec Grâce Hamzati, notre permanent au Parlement.
Malgré un contexte sécuritaire marqué par l'occupation de certaines zones de l'Est par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda et par la recrudescence des violences de la milice Mobondo dans l'ouest du pays, la Commission nationale des droits de l'homme affirme avoir poursuivi ses missions de protection et de promotion des droits humains en 2025. Devant les députés nationaux, son président Paul Sapou a indiqué que la CNDH a notamment mené des activités de sensibilisation, de formation, de monitoring des violations des droits humains, des traitements des plaintes et des visites des lieux de détention. L'institution reconnaît toutefois plusieurs obstacles majeurs à son action, parmi lesquels l'insuffisance des ressources financières et logistiques, la faible couverture territoriale ainsi que la nécessité de renforcer la collaboration avec les autres institutions de l'État. Après un débat houleux, les deux rapports ont été déclarés recevables par les députés, puis renvoyés à la commission mixte politique, administrative et juridique PAJ et droits de l'homme pour examen approfondi et formulation d'éventuelles recommandations.
Ici à Kinshasa toujours avec cette autre actualité, c'est le ras-le-bol de la population du quartier 11 Angili, les avenues Bakwanga, Zamba et Mbuku sont privées d'électricité depuis près d'un mois. Une coupure prolongée qui bouleverse le quotidien des habitants et fragilise les petits commerces. Reportage de Joyce Masanka.
Prolongés dans l'obscurité, les ménages peinent à conserver leurs aliments, à recharger leurs téléphones ou à éclairer leurs maisons. Certains habitants dénoncent une situation d'autant plus préoccupante qu'ils subissent déjà des délestages fréquents avant cette panne. Vols et agressions sont en rapport avec le riverain.
Cela fait maintenant un mois que nous n'avons plus d'électricité sur notre avenue. C'est très difficile, nous sommes obligés d'utiliser des bougies ou des lampes à batterie pendant la nuit. Nous avons du mal à conserver les aliments, à recharger les téléphones et à assurer la sécurité de nos maisons. Certains petits commerçants ne peuvent plus travailler normalement et perdent de l'argent. Oui, plusieurs habitants ont contacté les services concernés, mais jusqu'à présent la situation n'a pas changé.
Face à cette situation, un agent de la Société nationale d'électricité rassure la population vivant dans cette partie de la capitale.
La coupure est liée à un problème sur le réseau électrique qui parfois nécessite le remplacement de certains câbles. Nos équipes travaillent au remplacement des anciens câbles afin de pouvoir améliorer la fourniture de l'électricité dans ce secteur.
La SNEL assure que ses équipes sont mobilisées. Elle appelle les habitants à patienter le temps du rétablissement du courant.
Actualité internationale.
Maroc, soupçonné pour certains d'être des acteurs majeurs du trafic de cocaïne en Europe, ces binationaux marocains et belges, néerlandais ou français faisaient l'objet des mandats d'arrêt et d'une notice rouge d'Interpol. Parmi eux figurent notamment l'anversois belgo-marocain Abdelilah El Messaoudi, condamné à 34 ans de prison en Belgique. Il était en fuite depuis 2020.
L'invité.
La haute cour militaire a rendu son verdict vendredi 5 juin à Kinshasa. 54 personnes ont été condamnées à la peine de mort dans l'affaire de l'assassinat des experts des Nations Unies, Michael Sharp et Zaïda Catalan, près de 9 ans après le fait. Les condamnés étaient poursuivis notamment pour crimes de guerre par meurtre dans ce dossier lié au double homicide de ces deux enquêteurs onisiens tués en mars 2017 dans la province du Kasaï. Ce verdict a fait l'objet d'un débat entre les intervenants de l'émission Dialogue entre Congolais diffusée hier mardi. On les écoute au micro de Guy Matetsongo.
Dominique Kambala, vous êtes avocat, vous êtes membre de la société civile du Kasaï Central et ancien bâtonnier du barreau de cette province. Vous êtes également rapporteur de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation dans cette même province. Vous êtes également directeur général de l'ONGD dénommée Société Congolaise pour l'État des Droits, SED en sigle. Que pensez-vous de ces verdicts prononcés dans cette affaire?
Alors, la lecture qui peut être faite de ce verdict, elle est mitigée. Mitigée, dans un premier temps, nous accueillons ce verdict avec satisfaction, dans la mesure où ce procès s'inscrit dans le cadre de besoins exprimés par les populations de la province du Kasaï central lors des consultations populaires sur les besoins de la justice en 2020. Aussi, ce procès rencontre le deuxième pilier de la justice transitionnelle, à savoir la justice. Et que donc, nous pouvons nous dire qu'un pas a été réalisé, un pas a été franchi sur le chemin de la lutte contre l'impunité. Ça, c'est du côté, on dirait, positif, mais le sentiment mitigé aussi en termes d'interrogation. Interrogation dans la mesure où, comme on vient de le dire dans le reportage par André, c'est que, au cours des enquêtes qui ont été menées, des investigations dans tout ce qui s'est passé dans le Kasaï, il y a eu des commanditaires au plus haut niveau qui étaient cités. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce sont des menus fretins qui sont pratiquement poursuivis et sanctionnés.
Oui, vous auriez souhaité que les commanditaires soient non seulement poursuivis, mais aussi condamnés. Mais quand on apprend dans quelles conditions ces forfaits avaient été commis, pensez-vous qu'il était facile d'identifier les véritables commanditaires de ces doubles assassinats?
Mais oui, parce que nous avons suivi l'ensemble des cas emblématiques et prioritaires qui ont été sélectionnés par la cellule d'appui aux poursuites de la MONUSCO. Et dans certains dossiers, nous avons cité même devant les juridictions militaires, devant le littoral militaire supérieur, certaines personnes, certaines plaintes ont été déposées. Mais comment on se contente de menus fretins, je m'excuse de l'expression, alors qu'il y a des commanditaires au plus haut niveau, sur le plan civil et militaire, qui n'ont jamais été poursuivis?
Merci Jonas Tchoumbela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Avec les reculs du temps, Jonas Tchoumbela, peut-on aujourd'hui répondre à la question de savoir à qui auraient profité les doubles assassinats des experts des Nations Unies?
Mais c'est ça le problème de l'enquête. Le régime en place doit répondre. Ceux qui ont reçu ou qui avaient reçu la mission de protéger les personnes de leurs biens et de sécuriser les frontières de la République, y compris l'endroit où les crimes là se sont commis. Donc la responsabilité de l'État congolais reste engagée dans cette affaire, parce que c'est eux qui sont en place. Mais comment on est arrivé? Parce qu'il y a des grands messieurs du régime dont le nom ont été cités. Est-ce que ça est que ça profite pour supprimer la vie des experts? Donc tout ça, les enquêtes devaient nous éclairer et que la justice se saisisse pour que nous sachions ces crimes-là ont profité à qui.
Merci Rifin Louko Moussouba, vous êtes chercheur en droit de l'Université de Kinshasa et auteur de plusieurs ouvrages. À votre avis, vous en tant que juriste, hein, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que, en dépit du fait que certains noms sont cités, ces personnes n'ont jamais été non seulement invitées, mais aussi poursuivies? Est-ce que c'est lié au fait que les conditions dans lesquelles les assassinats ont été commis, les conditions étaient floues, ou alors il y a des impératifs politiques qui peuvent expliquer ça?
Bon, d'abord, les conditions étaient trop floues. Et puis, pour vous rappeler, les images étaient intenables. On appelle ça des images difficiles. Mais les raisons sont politiques, essentiellement. Ça veut dire quoi en ce qui concerne maintenant Kamuina Nsapu? Les feux Kamuina, c'est un phénomène qui a porté la disparition d'un nombre important de nos compatriotes. Ces faits-là sont essentiellement d'abord politiques. Il y a donc une responsabilité politique et les politiciens de l'époque n'ont pas voulu assumer la gravité, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont posé au Kasaï, notamment dans le territoire des chefs qui portent les noms de ces phénomènes. Et donc, pourquoi n'avons-nous pas vu les responsables majeurs être jugés? C'est la question que vous me posez. C'était des questions politiques.
Vous pouvez encore suivre Dialogue entre Congolais sur toutes les plateformes numériques de Radio Capi, ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net. Voilà qui met fin à ce journal du matin, coordonné et supervisé par Lievin Mwinga et mis en onde par André Mongou. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.